Sur la route de Guéret, de Pascal Martin, lu par Pascal Martin, musique Slow Burn de Spinning Merkaba. Quand l'inspecteur Laurent Brandet franchit la porte de son immeuble, dans la banlieue tout ce qu'il y avait de quelconque de Saint-Clément, où sa modeste paye de fonctionnaire de police lui permettait tout juste de se loger, il fut saisi par l'intensité de la luminosité. Cela faisait 4 jours qu'il planquait avec son équipe dans la pénombre d'un hangar désaffecté pour arrêter une bande de petits trafiquants de shit. Alors se retrouver en plein jour après seulement quelques heures de sommeil pour récupérer, cela faisait un choc lumineux presque douloureux. Il se dirigea vers le bar PMU au coin de sa rue. Cela faisait longtemps qu'il avait renoncé à se préparer quelque forme de nourriture que ce soit. C'était un geste écologique anti-gaspillage. Il avait jeté tellement de nourriture avariée qui avait dépéri au fond de son frigo qu'il s'en remettait désormais à des professionnels pour sa survie alimentaire. L'inspecteur Brandet avait été saisi par la nouvelle en entrant dans le bar des amis. L'établissement, toujours dans son jus années 70, entre peinture jaunie et déco redevenue à la mode, avait sans doute un jour été le repère de vrais amis, de potes de comptoir, des copains de tournée générale. Aujourd'hui, il accueillait des clients indifférents les uns aux autres, le nez collé sur leur téléphone ou l'œil hypnotisé par l'écran de télé. Ce qui navrait la patronne, qui n'avait plus personne à qui raconter les petites aventures du quotidien des habitants du quartier. Sa silhouette empâtée se dandinait sans entrain de table en table, en attendant de prendre sa retraite et de céder son bar, dont elle ne voulait surtout pas savoir ce qu'il deviendrait après elle. Les occupants du bar avaient les yeux rivés sur l'écran de télé installé au-dessus du comptoir. L'information tournait en boucle sur toutes les chaînes de télé. Des experts, tous plus ignorants les uns que les autres, se répondaient en 20 commentaires. Moins ils étaient compétents, plus ils se montraient péremptoires dans leurs affirmations approximatives, erronées ou fantaisistes, voire les trois en même temps. La patronne zappait de canal en canal à la recherche d'une information rassurante. C'était peine perdue. Il n'y avait qu'une seule certitude dans cette diarrhée verbale. Vu la situation, son boulot de flic n'allait pas être facilité dans les semaines à venir. Quelques clients réagirent et un semblant de conversation s'installa entre eux, mais vite tari par le manque d'intérêt pour leur prochain. Puis tous quittèrent les lieux, préoccupés par ce qu'ils allaient bien pouvoir faire pour échapper au pire qui s'annonçait. L'inspecteur Brandet en intercepta un, sans ménagement, alors qu'il tentait de partir sans payer. Il le propulsa violemment contre le comptoir et s'assura qu'il payait et laissait un bon pourboire. Sa détestation des profiteurs de malheur pouvait lui faire perdre son sang-froid, ce qui lui valait à près de 60 ans sa carrière plus que modeste. Briser les 2 genoux d'un élu qui s'était enrichi en détournant à son profit les aides sociales destinées aux plus démunis de sa commune y était bien entendu pour beaucoup. Peu sensible à la panique qui gagnait la population, comme à son habitude, il s'installa au bout du bar et commanda un demi-litre de café, une assiette de brouillé, une baguette de pain frais, un assortiment de fromage, un jus de fruits et du beurre salé à volonté. La patronne ferma la porte de son bar, se servit un verre bien tassé d'Armagnac et s'assit à côté de l'inspecteur Brandet sans un mot. L'ampleur de la catastrophe à venir dispensait les gens sensés de tout commentaire. Son petit déjeuner fini, il fit une accolade à la patronne, lui souhaita bonne chance et rentra chez lui. À son âge, sans famille à protéger, sans perspective de s'en sortir, sans pécule pour fuir à bonne distance, il lui fallut 2 minutes pour décider de ce qu'il allait faire pour finir sa vie et sa carrière dignement. Il jeta quelques affaires, un pistolet, un fusil à pompe et beaucoup de munitions, dans un vieux sac de sport. Il prit la direction de la maison d'arrêt, où était incarcéré un certain Daniel Vermanche. Il lui fallait parcourir 150 kilomètres au milieu du chaos. Armé, déterminé et motorisé, il ne doutait pas d'atteindre son objectif. Compte tenu de la situation, il ne prit pas la peine de prévenir ses collègues ou sa hiérarchie. Cela n'avait plus d'importance. Il fit au plus rapide pour quitter la ville. Il savait que dans quelques heures, le temps que les gens organisent leur fuite, le réseau routier serait complètement saturé. Les plus hargneux en viendraient aux mains, puis aux armes. On basculerait rapidement dans la barbarie et l'ignominie. Alors autant mettre le plus de distance entre lui et le genre humain, qui n'allait pas le rester très longtemps. Sur sa moto, l'inspecteur Brandet slalomait entre les accidents meurtriers, les attroupements vindicatifs et les embouteillages interminables. Il avançait plutôt bien malgré la désorganisation généralisée. Sa moto était moins convoitée qu'une voiture par des piétons désespérés en quête d'un moyen de transport. Toutefois, quand l'environnement devenait trop menaçant, il n'hésitait pas à sortir son arme et en faire usage. Il ne se laissait pas ralentir. Il avait une mission prioritaire. Les vols à destination de l'Amérique du Nord et du Sud, et ceux vers l'Asie et l'Océanie, avaient été pris d'assaut. Les trains vers l'Europe de l'Est ou du Nord étaient surchargés, mais tant que le train n'était pas parti, on montait dedans. À Paris, des milliers de gens arrivaient par la gare de Lyon et par la gare Montparnasse. Le métro avait été fermé pour des raisons de sécurité à la suite de plusieurs chutes sur les voies depuis les quais bondés. Après des incidents meurtriers, l'armée avait bouclé l'accès aux aéroports et aux gares. Les militaires étaient autorisés à faire usage de leurs armes pour protéger leur vie et celle de leurs collègues. Cela faisait bien longtemps que l'armée française n'avait pas ouvert le feu sur la population. Personne ne croyait que cela était possible. La réalité prouva que si, et après plusieurs morts, les tentatives d'intrusion cessèrent. L'inspecteur Brandet arriva à la maison d'arrêt quelques heures avant l'heure officielle de libération des détenus. En de telles circonstances, ne pas libérer les prisonniers équivalait à les condamner à mort. Le gouvernement avait donc décidé la libération de tous les détenus. Il s'était attendu à trouver une foule excitée de familles attendant l'un des leurs devant la prison. Il n'en était rien. Certains avaient sans doute préféré tenter leur chance en fuyant, laissant derrière eux leur père, frère ou mari dans leur prison, doutant qu'ils soient libérés à temps. D'autres plus optimistes avaient peut-être eu l'espoir de revoir leurs proches incarcérés bénéficier de la mansuétude des autorités en ce moment exceptionnel. Hélas, ils étaient probablement bloqués dans des kilomètres de bouchons. Les rangs étaient donc clairsemés devant la grande porte métallique pour accueillir les détenus qui allaient être libérés. Le policier s'en réjouit car être flic au moment de la libération de détenus, sans aucun contrôle, n'était pas une situation d'avenir. L'inspecteur Brandet montra sa carte de police pour entrer dans l'établissement. Le nombre de surveillants était réduit au minimum. Ceux qui avaient une famille avaient été autorisés à rentrer chez eux. La tension et l'angoisse étaient palpables parmi les malchanceux qui restaient. Dans une heure, ou plus, ou moins, ils allaient quitter les lieux après avoir ouvert les cellules à distance. Il leur faudra évacuer le site très rapidement avant que les détenus aient le temps de les rattraper, de se défouler sur eux et pour leur voler leur véhicule. Laurent Brandet se fit remettre un fauteuil roulant et demanda à être accompagné à la cellule de Daniel Vermanche. Compte tenu de la tension qui régnait parmi les détenus, personne ne voulait s'y rendre avec lui. Pas question de prendre le risque de se retrouver au milieu des prisonniers si par malheur les portes des cellules s'ouvraient plus tôt que prévu. Un jeune surveillant au visage blême de peur lui indiqua l'emplacement de la cellule du prisonnier. Il devrait s'y rendre seul et à ses risques et périls. Le gardien promit de lui ouvrir à distance la porte de la cellule quand il l'aurait atteinte. Les grilles de couloir étaient déjà ouvertes, il pouvait circuler librement. Seules les portes des cellules étaient encore fermées, en attendant le feu vert que le directeur de la prison attendait du ministère. Mais y avait-il encore quelqu'un là-bas pour prendre la peine de donner l'ordre de libération? L'inspecteur Brandet demanda les clés d'un fourgon cellulaire blindé qui était garé dans la cour et qui désormais ne servirait plus. Personne n'y vit d'inconvénient, ni ne posa de questions. Il prit son pistolet à la main, vérifia le magasin et s'assura de disposer de 3 chargeurs pleins dans ses poches. Le risque de se faire lyncher était réel. Il prit une inspiration et dit au jeune surveillant de lui ouvrir la porte. Il s'engagea dans le dédale des couloirs vers les cellules de Daniel Vermanche. Derrière les portes, les insultes et les menaces grondaient à son passage. Il lui fallait agir vite, car au moment de l'ouverture des portes, son espérance de vie ne dépasserait pas quelques minutes, et personne ne savait quand cela allait se produire. Sans se laisser distraire par la haine qui l'accompagnait, il avançait à grandes enjambées, poussant devant lui le fauteuil roulant. Tout au long de sa carrière, il avait souvent été confronté au danger. Mais les risques étaient calculés et il n'était pas seul. Aujourd'hui, dans cette prison en ébullition, où chacun craignait pour sa vie et pour celle de ses proches à l'extérieur, il avait vraiment peur. Arrivé enfin devant la porte de la cellule de Daniel Vermanche, le policier jeta un œil par l'œilleton. Le prisonnier était sur son lit en train de lire. Il fit un signe de la tête à la caméra de vidéosurveillance. Le jeune gardien tint parole et ouvrit la porte. Daniel Vermanche jeta un regard terrorisé au-dessus de son livre. Il parut rassuré en reconnaissant le policier qui l'avait arrêté quelques années auparavant. Il savait qu'à l'instant où les portes s'ouvriraient, les autres détenus viendraient le massacrer avant de sortir. En prison, c'était la triste fin de certains condamnés. Quand la porte s'était ouverte, il avait cru sa dernière heure arriver. Mais la présence du policier le rassura. Sous la menace de son arme, sans aucune explication, l'inspecteur Brandet le fit se lever, lui passa les menottes dans le dos, l'assit dans le fauteuil roulant et lui injecta dans le cou un puissant somnifère qui le fit sombrer immédiatement. Poussant le fauteuil aussi vite qu'il le pouvait, l'inspecteur Brandet fit rapidement le chemin inverse et salua les surveillants qui se gardèrent bien de s'intéresser à ce qu'il faisait. Un détenu de plus ou de moins, à ce stade, ça n'avait plus aucune importance. Le policier installa son prisonnier dans le fourgon cellulaire et prit la direction de Guéret par les routes secondaires. Elles seraient sans doute bien moins encombrées que les grands axes. Comme ils s'y attendaient, plus ils approchaient de leur destination, moins il y avait de monde. Personne ne prenait la direction de Guéret. C'était déjà le cas en temps normal, mais depuis quelques jours, cela était encore plus vrai. Des morts, des carcasses de voitures, des maisons calcinées, il y en avait. Des vivants, non. Ils roulèrent pendant 6 heures sans rencontrer de difficultés majeures. Il n'était pas difficile de trouver de quoi se nourrir. Tout le monde était parti dans la précipitation et il restait de la nourriture dans tous les magasins. Un groupe d'une demi-douzaine de pseudo-miliciens avait improvisé un barrage sur un pont franchissant la Creuse et, fusil à la main, ils raquettaient les derniers fuyards. Bien mal leur en prit de s'attaquer au fourgon cellulaire. Le policier avait observé leurs manœuvres de loin et il avait compris ce qu'ils faisaient. Aussi s'engagea-t-il sur le pont à allure réduite afin de ne pas éveiller les soupçons. Puis arrivé à une dizaine de mètres de la barricade et de ses 2 hommes en faction, il accéléra. Le temps que les 2 individus réalisent ce qu'il se passait et tentent de tirer, le fourgon leur était passé dessus, avait pulvérisé la barricade et s'était immobilisé un peu plus loin. Les 4 autres tirèrent sur le véhicule les 2 coups de feu de leur fusil de chasse. Le temps qu'ils retirent les cartouches vides et en remettent d'autres, l'inspecteur Brandet était sur eux, son fusil à pompe à la main. Pour éviter qu'ils reconstituent la barricade et poursuivent leur raquette, il leur logea chacun une balle dans la tête. Sa détestation des profiteurs de malheur pouvait lui faire perdre son sang-froid. Il remonta dans le fourgon et poursuivit sa route. Il entra enfin dans Guéret par la zone commerciale dont les magasins avaient tous été pillés. Il se demandait qui pouvait être assez crétin pour dévaliser un magasin de puériculture ou de décoration en ce moment. La ville était déserte, visiblement abandonnée à la hâte. Quelques chats erraient nonchalamment. Le policier gara le fourgon sur la place Beugnot. L'eau coulait toujours dans la fontaine des Trois-Grâces. Il en prit un peu au creux de sa main pour se rafraîchir le visage. Un gros chien affamé coursa un chat qui se réfugia dans un arbre. Ayant raté ce repas, il tenta sa chance avec une plus grosse proie sous la forme d'un policier fatigué et isolé. Avant qu'il ait pu l'atteindre, l'inspecteur Brandel l'avait abattu. La détonation se réverbéra sur les murs des rues désertes et réveilla Daniel Vermanche. Sans ménagement, l'inspecteur Brandel aida à sortir du fourgon. Les jambes engourdies par plusieurs heures de voyage inconfortable, il perdit l'équilibre et s'affaissa sur le sol. Laurent Brandel lui ordonna de se relever, et devant sa mauvaise volonté à obtempérer, le policier le motiva d'un bon coup de pied dans les côtes qui lui coupa la respiration, mais le motiva à se remettre sur pied. L'inspecteur Brandet fit un selfie avec son prisonnier devant la fontaine. Il envoya la photo par SMS aux personnes pour qui il faisait tout cela. Il précisa dans le message d'accompagnement que, conformément à sa promesse, Daniel Vermanche purgerait sa peine jusqu'au bout, sans aucune libération possible. Il géolocalisa la photo pour que chacun comprenne bien où il se trouvait. Puis ils se rendirent à pied dans un hôtel abandonné tout proche. Le prisonnier demanda où ils étaient et ce qu'ils faisaient là. Pour toute réponse, le policier dit que, comme il pouvait le constater en regardant autour de lui, il se trouvait dans le seul endroit sur Terre où personne ne souhaitait se trouver. Il comprit qu'ils étaient à Guéret et que cela ne présageait rien de bon. Dans les jours qui suivirent, l'inspecteur Brandet reçut des messages de remerciement de tous ceux et celles à qui il avait envoyé la photo. Il considéra alors qu'il avait fait le bon choix pour honorer sa vie de policier et d'homme. Il était apaisé. Il avait installé Daniel Vermanche au dernier étage dans une chambre dont il avait condamné la fenêtre. Et par précaution, il le laissait aussi menotté au lit. Quand Daniel Vermanche eut compris les intentions de son geôlier, il tenta tout pour retrouver sa liberté, même s'il savait que cela ne le mènerait à rien, compte tenu de leur situation géographique. Plus le prisonnier suppliait, argumentait, implorait, plus le policier se délectait. Il devait reconnaître qu'il prenait un réel plaisir à faire subir à Daniel Vermanche ce que celui-ci avait probablement fait endurer à ses victimes. Ce n'était pas glorieux, mais c'était jouissif. Il ne perdait pas son temps à lui répondre, il le laissait parler, crier, râler, hurler parfois, sans jamais réagir. Il s'était installé dans une chambre, loin de celle de son prisonnier, et il n'était nullement incommodé par ses cris qu'il n'entendait pas. Une fois par jour, il lui apportait de quoi se nourrir et de l'eau. Il avait laissé près du lit un seau pour ses besoins organiques, mais il se gardait bien de le vider. Il était geôlier, pas homme de ménage. L'atmosphère dans la chambre était assez nauséabonde, mais comme il n'y passait que pour jeter sur le lit un peu de nourriture et une bouteille d'eau, c'était assez supportable pour lui. D'une certaine façon, l'inspecteur Brandet était satisfait de la situation. Certes, il aurait aimé se profiter un peu plus longtemps de la vie, encore que la sienne n'était pas spécialement exaltante, mais une chose était certaine, il n'était pas question que le tueur en série qui avait martyrisé et assassiné une dizaine d'enfants soit libéré. Il était exclu qu'il ait une chance, même infime, de survivre au cataclysme annoncé. L'inspecteur Brandet avait fait une promesse aux familles submergées par la peine et le désespoir. Lui vivant, jamais Daniel Vermanche ne retrouverait la liberté. Après les atrocités qu'il avait commises, il ne ressortirait pas. Et même si, par hasard, il ressortait, il ne profiterait pas longtemps de sa liberté. Il serait là pour empêcher que cela se produise, quitte à faire des choses qu'un policier n'était pas supposé faire. Il avait pensé à bien des cas, remise de peine, libération pour maladie incurable, évasion, Pour chaque situation, il avait mis au point un plan pour neutraliser le tueur d'enfants. Tant pis si ça lui coûtait le reste de sa carrière. Il avait si bien préparé ses actions qu'il était certain qu'on ne le soupçonnerait pas. Après 40 ans dans la police, il saurait tuer et faire disparaître un malfaisant en toute discrétion. Mais ce qu'il n'avait pas imaginé, c'était ce qui allait arriver dans moins de 2 semaines. Une météorite de la taille de Paris allait s'écraser sur Guéret. C'était joué de malchance pour Guéret d'accéder enfin à la notoriété internationale quelques jours avant de disparaître, et avec elle une partie de l'Europe occidentale. Selon les estimations, il y aurait peut-être des survivants. Si la population parvenait à survivre à la nuit de cendres qui allait durer plusieurs années et ferait chuter la température de la Terre de plusieurs dizaines de degrés. Pour l'inspecteur Brandel, les journées qui suivirent s'écoulèrent tranquillement entre recherche de nourriture, lecture et balade. Le dernier jour, une lumière aveuglante embrasa le ciel. Une intense chaleur brûla l'air. L'inspecteur Brandet se remémora une dernière fois les visages des enfants assassinés, puis l'image disparut.